Espace, horizon inaccessible. Une émission présentée par Jean-Jacques Ibos chaque mois sur un aspect de la conquête de l'air et de l'espace. Aujourd'hui, épisode numéro 26. Où en est-on de l'exploration de l'espace, proche ou lointain ?
Commençons par l'exploration de la Lune. Le Google Lunar XPRIZE. Google a lancé en 2007 une compétition dotée de 30 millions de dollars pour la première société privée qui fera atterrir un rover sur la Lune et le fera rouler sur 500 mètres avant fin 2017. Échéance ensuite repoussée au 31 mars 2018. 39 équipes sont inscrites et à mi-2017, 7 étaient encore en lice. Space-IL, Israël, avec l'atterrisseur Bereshit, le commencement en hébreu, atterrisseur de 596 kg. Moon Express, USA, le MX-1E de 200 kg, utilisant ses propulseurs pour se déplacer par petits bonds. Lancement prévu en 2019 avec la fusée néo-zélandaise Electron. Team Indus, Inde, en attente 2019 d'un contrat de lancement. Akuto, au Japon, ses deux rovers embarquant sur la même fusée indienne et se posant à l'entrée d'un tunnel de lave. Synergy Moon, une société internationale, débarquement d'un atterrisseur et d'un rover. Dans le cadre de ce concours, la société Part-Time Scientist avait laissé un projet, Alina, non retenu parmi les finalistes. Hélas, pour les candidats, aucun n'a pu réussir ce pari, et la compétition a été close sans vainqueur le 23 janvier 2018. Mais les concurrents à ce prix ne sont pas les seuls à viser la Lune. La Chine, avec Chang'e 5, l'Inde, Chandraya 2, les USA, capsule Orion, rover Viper de la NASA et Dragon 2 de SpaceX, l'atterrisseur Artemis de Blue Origin, l'ESA, l'ESM, le module de service d'Orion et avec l'atterrisseur, la JAXA, la japonaise, avec SLIM, un atterrisseur, et eSpace, un atterrisseur et un rover, le Luxembourg, eSpace, un atterrisseur, et le Canada, deux rovers de la société Canadensis. Petit mot sur eSpace. Cette société japonaise a réservé deux vols à SpaceX pour déposer sur la Lune et un astromobile sur la Lune en 2021, puis un autre en 2023. Ceci afin de transformer l'eau lunaire en carburant, puis exploiter ses ressources minérales et y construire des bases de vie. L'atterrisseur Bereshit, développé par Israël, dont le coût de développement a été de 90 millions de dollars, a été lancé le 22 février 2019 par une Falcon 9, donc après la clôture du Google Prize. Ce démonstrateur technologique devait faire un bond de 500 mètres après son posé sur le sol lunaire, prévu le 11 avril, et étudier pendant 3 jours les anomalies magnétiques de la mer de la Sérénité, site proche de ceux de Lunokhod 2 et d'Apollo 15. Il a emporté un DVD contenant 30 millions de pages sur Israël. Mais à cause de la défaillance du moteur de descente, à 200 mètres de la surface, la sonde s'est écrasée sur la Lune. Ce qui a fait dire à l'homme d'affaires israélien qui a participé au financement de ce projet, « Nous n'y sommes pas arrivés, mais nous avons bel et bien essayé. » Et la technologie mise en œuvre pour l'atterrissage sera exploitée par la société américaine Firefly Aerospace, qui construit son propre module d'atterrisseur lunaire. La chinoise Chang'e 4 s'est posée le 3 janvier 2019 sur la face cachée de la Lune, réalisant une première mondiale. Et son rover U-2 y a fonctionné pendant 4 mois terrestres. Chang'e 5, atterrisseur de 8 tonnes d'eau au décollage, a été lancé le 23 novembre 2020 par une fusée Long March 5. Elle s'est mise en orbite le 28 novembre et l'atterrisseur s'est posé le 1er décembre. Un forage a été effectué par la sonde et la collecte de matériaux lunaires a été placée dans une capsule qui, installée dans un étage de remontée, a décollé de la Lune le 3 décembre et rejoint le module de service resté en orbite. Et ce troisième élément est revenu vers la Terre où il a envoyé dans l'atmosphère une capsule qui s'est posée le 16 décembre 2020 dans le désert de Mongolie intérieure. Les 1,73 kg d'échantillons rapportés par Chang'e 5 ont montré que des volcans étaient actifs sur la Lune il y a 2 milliards d'années. Voyons ce que fait l'ESA, l'Agence spatiale européenne. Pour Claudie Agnoret, l'unique spationaute française, conseillère auprès du directeur de l'ESA, il est de l'intérêt de l'humanité à retourner sur la Lune pour, je cite, y déployer une base, mettre au point des systèmes pour stocker l'énergie efficacement, purifier l'eau, gérer les déchets, mettre en place une économie circulaire. Toutes ces innovations permettant de résoudre ces problèmes que l'on rencontre sur Terre. En octobre 2019, l'ESA a signé un contrat avec Ariane Group pour l'étude d'une mission vers Lune avec une Ariane 6 aux alentours de 2025. Une coopération entre Ariane Group, la société Space Application Service et la start-up allemande PT Scientist prévoit pour 2025 aussi le poser d'un atterrisseur sur la Lune et de deux rovers, avec la mission de démontrer qu'il sera possible d'extraire de l'oxygène et des minéraux. L'atterrisseur se posera à 4 km du site d'Apollo 17, allant faire un état de ce qu'il reste de la dernière mission d'exploration humaine, il y a 47 ans, en 2019. L'ESA a dans ses cartons un projet lunaire constitué de modules gonflables ou préalables, assemblés par des robots qui pourraient être montés sur la face cachée. Nouvelle directive US. Si la reconquête de la Lune est au programme de chacun des présidents des États-Unis, mais elle est toujours remise en cause par leurs successeurs. Après l'accord passé avec la Russie en septembre 2017, les USA ont proposé une coopération au niveau interplanétaire. Europe avec l'ESA, mais aussi la Chine, l'Inde et le Japon. La première étape sera l'unification des normes techniques qui seront utilisées à l'avenir. Les fusées russes, Angara et Proton, ainsi qu'américaines, SLS, seront utilisées pour desservir cette station. La fusée Angara a effectué son premier vol le 23 décembre 2014 et son second le 14 décembre 2020. Il est prévu un vol en 2022, puis un autre en 2024. Mais les fusées russes, indispensables après l'arrêt des navettes spatiales pour les desserts de l'ISS, et mises en mal par SpaceX avec ses capsules Dragon, Crew Dragon, à seulement 55 millions de dollars la place, et ses lanceurs lourds qui concurrencent les Soyuz, où le ticket était de 90 millions de dollars, et des vaisseaux cargo Proton. Il y a plusieurs générations de techniques et d'informatique entre une Crew Dragon et une Soyuz quasiment identique à celle de Gagarine, lancée en 61. La dernière initiative d'octobre 2017 de l'administration américaine s'appelle Deep Space Gateway, station internationale en orbite lunaire, rebaptisée en juin 2018 Lunar Orbiter Platform Gateway par le nouveau directeur de la NASA. D'un volume bien inférieur à l'ISS, 75 tonnes contre 450, dont la fin est programmée pour 2024-2028, elle permettrait de faire progresser les connaissances pour la préparation de voyages vers Mars. Le 11 décembre 2017, soit 45 ans après le dernier alunissage avec Apollo 17, le président Donald Trump signe une directive nommée Space Policy Directive 1. Elle prévoyait un programme d'exploration spatiale innovant dans ces termes. Cette fois, il ne s'agit pas seulement de planter notre drapeau et de laisser notre empreinte. Nous établirons une base pour une mission vers Mars et peut-être un jour au-delà. Cette déclaration fait suite à une série d'annonces faites par le vice-président Mike Pence en octobre et d'une discussion avec les Russes sur l'établissement d'une station orbitale autour de la Lune. Mais le financement par les Russes d'un vaisseau de transport dérivé du Soyouz risque de compromettre le projet de l'agence Roscosmos et le constructeur RKK Energia de lancer son nouveau vaisseau Federastia, fédération russe, prévu pour voler en 2021 avec la capacité d'amener un équipage à la Lune dans deux versions de 27 ou 33 tonnes. Et la guerre en Ukraine a complètement arrêté la coopération dans tous les niveaux entre la Russie et l'Occident, compromettant de très nombreuses missions spatiales. En Occident, le premier module de la station LOPG, la Lunar Orbital Platform Gateway, construit par Lockheed Martin et Northrop Grumman, pourrait être installé en 2022, suivi en 2023 d'un module d'habitat. L'Europe a signé avec Thales pour développer deux modules qui iront s'arrimer à cette future station.
C'était Espace Horizon Inaccessible, numéro 26. Une émission présentée chaque mois par Jean-Jacques Ibos sur un aspect de la conquête de l'air et de l'espace.